Décryptage, Anne Cantner.
C'est l'une des priorités des États comme des entreprises, garantir la sécurité informatique. Les cyberattaques se multiplient contre les gouvernements comme contre les entreprises, au point que de nombreux pays, dont la France ou la Pologne par exemple, développent en ce moment des départements militaires chargés de la cyberdéfense. Dans une sorte d'annuaire du piratage informatique, les entreprises Thales et Verint nous apprennent cette semaine que les principaux responsables de cyberattaques sont d'origine étatique ou bien soutenus par un État. Dans quelle mesure peut-on identifier les auteurs de ce type d'attaque? Quelles sont leurs cibles? Et comment se protéger des cyberattaques? Bienvenue dans Décryptage. Nous allons aborder ces questions avec Fabrice Eppelboin, spécialiste de la géopolitique du cyberespace et enseignant à Sciences Po à Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
En face de vous, Olivier Kempf. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez le cabinet stratégique La Vigie et vous êtes chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Je le disais il y a quelques instants, donc les entreprises françaises Thales et israéliennes Verint viennent donc de publier un rapport, ou plutôt un annuaire où l'on retrouve des groupes de pirates informatiques. Je précise que Thales est un groupe d'électronique spécialisé dans l'aérospatiale et qui veut devenir un leader dans la sécurité digitale. Et Verint, une entreprise en pointe dans le cyber-renseignement. Fabrice Eppelboin, ces deux entreprises ont identifié une soixantaine d'attaquants de haut niveau. Comment fait-on pour repérer un cybercriminel et savoir d'où il opère ?
Comme on fait pour repérer un criminel, il a des méthodologies, des pratiques, une typologie d'attaque, des éléments qui font qu'on peut identifier à même hauteur derrière différentes attaques. Et vu le nombre d'attaques, au bout d'un moment, on commence à identifier des groupes de façon assez claire. C'est un jeu auquel se livrent de nombreuses sociétés de cybersécurité, aussi bien Thales que des plus historiques, on va dire, comme Kaspersky, qui est russe, et tous, bon an, mal an, livrent le même type d'analyse et on avance petit à petit dans un tableau assez clair de ce qui se passe dans le cyberespace.
Alors il existe quand même des outils de brouillage. Je pense par exemple à des documents qui avaient été rendus publics par Wikileaks et qui avaient montré que la CIA utilisait des outils qui lui donnaient la capacité d'attaquer en laissant des indices dans le logiciel pour faire penser à une provenance russe. Et ça allait même plus loin puisque cet outil permettait de laisser penser qu'il s'agissait d'un logiciel chinois voulant se faire passer pour un russe. Et j'imagine que d'autres pays ou d'autres organisations utilisent les mêmes méthodes, Olivier Kempf.
Alors forcément, ça tient à une caractéristique du cyberespace qui est un espace technique et où paradoxalement on n'arrive pas à avoir de preuves techniques. Et donc ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que nos méthodes d'attribution ne sont pas des méthodes d'attribution comme la police scientifique, mais par un système de faisceau d'indices où à force d'indices, on réussit à reconstruire un auteur, à décrire un auteur. Mais alors, résultat des courses, si on est sur du faisceau d'indices, sur du comportement, ça peut s'imiter. Et donc, vous pouvez faire une méthode inverse, justement, pour faire croire que c'est pas vous et que c'est l'autre.
Donc on arrive quand même, si je comprends bien, à essayer de d'imaginer, d'identifier certaines provenances d'attaques. Donc Thales et Verint assurent avoir identifié un certain nombre de groupes de pirates informatiques. La moitié d'entre eux seraient d'origine étatique ou soutenus par des États. Est-ce que ça vous surprend, Fabrice Eppelboin?
Pas le moins du monde. Après, il faut faire attention. On est en train de comparer des choux-fleurs et des carottes. Si on compte un groupe d'activistes au même titre qu'on compte une unité opérationnelle de la NSA,
l'agence de surveillance nationale américaine,
qui font partie du gratin. Cette façon de compter un et un est quand même à prendre avec beaucoup de recul. C'est un peu comme si on comparait une petite bande de délinquants avec de l'autre côté l'armée française.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'un petit groupe de criminels travaille en collaboration avec un État?
Ah, mais il y a même des États dont c'est la stratégie. À défaut d'avoir les moyens financiers de la NSA, typiquement, l'État russe travaille avec des organisations cybercriminelles à qui elle délègue des missions et en contrepartie d'une paix relative.
Olivier Kempf, sur ce point, est-ce que ça a du sens de dissocier des groupes de cybercriminels et des États? Est-ce qu'il y a une frontière vraiment nette? Non, d'après ce que
je comprends. Ça dépend des États, ça ne fonctionne pas comme ça.
Alors, revenons sur le rapport, parce qu'il parle des cyberagressions, cyberattaques les plus évoluées, c'est-à-dire le haut du panier par rapport à une criminalité quotidienne qui se répand et qui agresse tout le monde. Donc là, on est quand même sur les choses les plus importantes. Après, on a un phénomène qui nous rappelle appelle le XVIIe siècle ou le XVIIIe siècle, qui est celui des corsaires. Les corsaires étaient des entrepreneurs privés qui avaient des gains privés sur des objectifs qu'ils choisissaient ou pas, mais ils agissaient au nom du drapeau qui les payait. Et finalement, c'est un peu ce qu'on a dans le cyberespace, c'est-à-dire que quand on dit État ou soutenu par les États, vous avez effectivement des États qui ont les moyens de tout faire eux-mêmes. Il y en a un de l'autre côté de l'Atlantique, par exemple, ou il y en a un de l'autre côté du Pacifique. Autre exemple. Et puis, vous avez des États plus modestes qui vont favoriser l'entrepreneuriat privé. Vous citiez les Russes. Paradoxalement, les Russes favorisent cet entrepreneuriat privé. Je reviens sur les Américains que je décrivais. Eux, c'est même pas du corsaire. On est dans le pays de la libre entreprise et là, c'est de la sous-traitance directement. Si on revient à l'affaire Snowden, Snowden était un sous-traitant de la NSA.
Qui était consultant et qui avait donc
accès à tous les niveaux de secret, etc., etc., et qui nous a appris comment fonctionnait la NSA, et ça a été quand même une grande révélation il y a 4 ans.
Et qui avait dévoilé donc que la NSA avait intercepté un nombre immense de communications personnelles aux États-Unis, alors enfin ailleurs d'ailleurs aux États-Unis,
dans le monde entier
et en France et dans le monde entier. Cette étude des entreprises Thales et Verint nous apprend notamment que les groupes les plus dangereux en termes de sophistication sont russes et chinois. On en a parlé un petit peu. Ces groupes chinois et russes, est-ce qu'ils sont vraiment en pointe ou est-ce qu'ils sont seulement plus visibles?
Je pense qu'ils sont plus visibles et puis je pense qu'il y a peut-être une certaine discrétion à ne pas trop expliquer que les Américains sont des très très bons acteurs aussi. Je veux dire, ils font quand même partie, c'est quand même la première puissance du cyberespace, ça fait 30 ans qu'ils agissent dedans et c'est ce qu'on a là encore appris avec l'affaire Snowden, c'est que ils ont inventé des procédures, des mécanismes, des outils qui étaient incroyables, enfin qui nous ont tous surpris à l'époque. Je prends Fabrice à témoin qui hoche la tête. Donc oui, vous avez une première division. Voilà, je veux dire, le cyberespace, c'est comme au football. Vous avez une première division, une deuxième division, une troisième division. En première division, il y a les Russes, il y a les Chinois, il y a les Américains bien sûr, il y a les Anglais, il y a les Français, il y a les Israéliens. Et puis après il y en a qui jouent pour le maintien.
Alors parmi ces pays qui jouent pour le maintien, Fabrice Eppelboin, sur lesquels on peut compter en dehors de ces grandes puissances du cyberespace qu'on vient d'évoquer?
Je pense que l'un des plus intéressants, c'est sans doute l'Iran, parce que l'Iran a donné naissance à une génération d'experts du cyber suite à Stuxnet, qui est une attaque qui date de 2008 et qui déjà à l'époque fascinait absolument tout le monde par sa sophistication, qui est vraisemblablement le fruit d'une collaboration entre les Américains et les Israéliens.
Qui était une attaque qui avait perturbé des centrifugeuses.
Oui, sérieusement perturbé. Les
en Iran et donc le programme nucléaire.
Et complètement détruit le programme nucléaire iranien pendant des années. Et les Iraniens, d'ailleurs, ont répliqué en paralysant, ça va vous sembler familier, mais ça a pourtant 10 ans, les installations d'Aramco de façon strictement cybernétique. À l'époque, il n'y avait pas de fumée, mais c'était rigoureusement le même effet. Et cette attaque a provoqué, au sein de la jeunesse iranienne, des vraies vocations pour intégrer un commandement cyber. Et clairement, les Iraniens sont bien meilleurs aujourd'hui qu'ils n'étaient il y a 10 ans. Et c'est le résultat d'une attaque américaine.
Alors on parle des attaques, dans tout ce fonctionnement du cyberespace, il y a aussi l'espionnage, la collecte d'informations, l'analyse des données. On se souvient par exemple de réticences exprimées en France quand la DGSI, donc la Sécurité Intérieure, avait signé un contrat après les attentats de 2015 avec l'entreprise américaine Palantir, justement pour analyser des données. Fabrice Eppelboin, est-ce que tous les États ont les mêmes capacités en termes d'analyse de ces données?
Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Là-dessus, il y a un leader incontesté qui sont les États-Unis. Peut-être que les Chinois ont des choses intéressantes, mais toujours est-il qu'ils ne les vendent pas. Mais les Américains sont à ce jour, avec Palantir, les seuls à disposer d'un outil qui permet de faire sens des données qu'on a récoltées. On est très bon en France pour récolter des données absolument en quantité invraisemblable sur une quantité de pays. Mais par contre, quand il s'agit de faire sens de tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, le logiciel vraiment phare, c'est Palantir. Le problème, c'est que derrière Palantir, il y a toute une machine américaine qui aujourd'hui est très clairement l'entourage, on va dire, des sachants du numérique qui est autour de Donald Trump.
Comment ça fonctionne cette analyse de données? Qu'est-ce qu'il faut comme capacité technique qui manque à la France et probablement à d'autres États, Olivier Kempf?
Il faut déjà d'abord des données, il faut ensuite beaucoup de capacités de traitement. ce qui est souvent oublié, mais il faut quand même des grosses capacités de calcul. Il faut des ingénieurs qui soient capables d'entraîner ces choses-là sur des nouveaux modèles de données massives, big data en bon franglais, et dorénavant en intelligence artificielle, puisque c'est l'étape d'après du big data. Donc il faut tout ça, les efforts sont aujourd'hui réalisés, mais nous assistons en fait depuis 30 ans à une course aux armements. Dans le cyberespace. Donc aujourd'hui, vous me parlez d'analyse de données, etc., etc., mais parce que c'est aujourd'hui le problème qui se pose en 2019, sachant qu'il y a 10 ans, on était plus à examiner les capacités d'écoute, comment espionner les câbles, comment regarder ce qui se passait dans les stations d'atterrage des câbles sous-marins, etc., etc. Donc vous voyez, on est dans une course aux armements, avec des technologies motivées par le privé, mais pas seulement, qui évoluent sans cesse, et ce qui fait que vous en avez effectivement qui courent en tête, et puis d'autres qui courent très vite derrière, profitant d'ailleurs des échecs des premiers, en voyant un peu ce qu'ils font, pour rattraper un peu une partie du retard, et puis pour rester dans la course.
Vous le dites, il y a vraiment des enjeux géopolitiques extrêmement importants qui se jouent au niveau du cyberespace, même qui est devenu une arme, en fait, l'utilisation de ce cyberespace. On parlait il y a quelques instants de ce virus qui avait donc mis à plat le programme nucléaire iranien il y a quelques années. Fabrice Eppelboin, est-ce que ce type d'opération est amené à se reproduire ?
Ah bien sûr, c'est ce type d'opération sans être quotidien, parce que Stuxnet c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel dans la technicité. Ce type d'opération est le courant d'une quantité faramineuse d'industries, à commencer par l'armement et la défense, mais il y a plein d'autres industries qui font face à des attaques d'une sophistication absolument incroyable.
Décryptage sur RFI. Anne Cantner.
Vous parliez de la défense à l'instant. Le rapport qui a été publié hier nous informe justement sur les cibles d'attaques informatiques. Les plus visées sont le gouvernement et la défense. Cela représente près de la moitié des cyberattaques. En France, la ministre de la Défense vient d'inaugurer un commandement militaire de la cyberdéfense. La Pologne a prévu de faire la même chose dans les années à venir. Olivier Kempf, est-ce qu'il existe des programmes européen ou bien au niveau de l'OTAN, ou alors pour l'instant la cyberdéfense s'organise uniquement au niveau national?
Il faut bien comprendre que le cyberespace, c'est de la manipulation de l'information, c'est donc de la capacité à conserver du secret et à percer les secrets des autres, qu'il s'agisse des secrets étatiques ou des secrets des entreprises ou des secrets des individus, et que donc ça appartient au cœur de souveraineté. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a quelques petites coopérations mais qui sont finalement assez marginales, qui permettent d'ailleurs de faire des progrès, mais principalement, le cyber reste une affaire étatique, donc nationale.
Et sur le risque de répétition de ce genre d'attaque, d'infiltration, comme on l'évoquait à l'instant en Iran, pour gêner, empêcher le programme nucléaire?
Puisqu'il y a une course aux armements, je vais utiliser un autre mot du domaine stratégique, qui est celui de prolifération. C'est-à-dire qu'on a à la fois une prolifération horizontale, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'agressions de tout type sur tous les acteurs, de la part de plus en plus d'acteurs d'ailleurs, donc prolifération horizontale, et puis une prolifération verticale, c'est-à-dire une montée en puissance, une montée en qualité, une montée en performance de ce qu'on voit. Donc bienvenue en 2019.
Parmi donc les différentes cibles, on le disait, il y a la défense, il y a aussi un secteur qui est très important pour de nombreux pays, c'est le secteur de l'aéronautique, soit pour de l'espionnage, soit pour ralentir la production par exemple. On l'a vu ces derniers mois avec le groupe Airbus, 4 attaques majeures qui ont montré un point faible. Généralement, les grandes entreprises, elles sont bien protégées, mais les cybercriminels trouvent des failles chez leurs sous-traitants. Fabrice Eppelboin, là aussi, la ministre française de la Défense a prévu de renforcer leur capacité de protection. Pourquoi est-ce que ces moyennes entreprises sont des cibles si faciles ?
Parce que c'est compliqué de se protéger, et parce que moyenne ou grosse, en général, le problème se situe, comme on aime le dire, entre le clavier et la chaise. La faille majeure, c'est l'être humain. Donc quand vous avez affaire à des experts en informatique, ils savent à quoi s'attendre, ils savent se protéger. Quand vous avez affaire à un utilisateur lambda de l'informatique, il est excessivement facile de pirater tout ce que vous voulez juste en le roulant et en jouant avec. On n'a même plus besoin de pirater un système informatique dans ce cas-là. Et là, effectivement, les sous-traitants sont des cibles de choix sur ce type d'opération.
Comment ça se passe concrètement, par exemple, ce que vous décrivez?
Concrètement, vous allez chez Louis Vuitton, je m'excuse auprès du CSA, vous achetez une clé USB, ça vous paraîtra quand même excessivement cher pour une bête clé USB, mais par contre, si vous la laissez dans l'ascenseur de chez... Je vais pas dire Thales parce que quand même c'est, mais de chez Airbus, vous êtes à peu près certain qu'elle va être ramassée, qu'elle va être insérée dans un ordinateur, et là, pour peu qu'il y ait la moindre faille, ben, tout devient possible.
Alors justement, il existe un certain nombre de, comment dire, de méfiance de la part des États au niveau économique, commercial. On l'a vu notamment avec ce qu'on a appelé la loi Huawei en France. Donc Huawei, donc cette entreprise chinoise de téléphonie qui est en pointe sur le développement de la 5G. En France, il va falloir, les opérateurs qui voudront s'équiper de la 5G des appareils Huawei devront demander une autorisation au Premier ministre. Est-ce que ça vous semble pertinent comme mesure de protection, Fabrice Eppelboin?
Honnêtement, quand on voit la capacité de nos politiques à légiférer sur tout ce qui touche au numérique, on a un magnifique exemple avec la directive Copyright et Google récemment, non, ça ne servira absolument à rien. Le problème qu'on a en France, et il n'y a pas qu'en France, c'est la capacité des décideurs politiques à intégrer le numérique, évidemment le cyber, qui est finalement une sous-partie, dans une décision stratégique. On est dans une culture où l'informatique est une fonction support. Et on fait face à une disruption où l'informatique est la fonction transformative majeure. Les grandes entreprises qui sont nées au 21e siècle, qui ont assumé leur domination au 21e siècle, sont toutes montées par des ingénieurs, sont toutes issues du numérique. Et on est, nous, un vieux continent dans lequel le service informatique est juste... considérées comme des femmes de ménage. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec les attentats de la préfecture de Paris. On considérait cette personne qui grosso modo administrait les réseaux de la préfecture de Paris ou contribuait à les administrer comme une femme de ménage. C'est catastrophique et ça rend impossible toute approche stratégique du problème.
Oui, parce qu'effectivement, il est possible que cette personne, le tueur de la préfecture de Paris, ait transmis des données. Il avait accès à un certain nombre de données et qu'il les ait rendues...
Très objectivement, ça serait étonnant qu'il ne l'ait pas fait. Vu ses capacités techniques, et ça ne demande pas non plus un savoir-faire technique incroyable de transmettre des données, de communiquer de façon sécurisée, en restant discret, à se demander si les clés USB qu'on retrouve chez lui ne sont pas délibérément laissées là. Ça serait objectivement plutôt bien joué de sa part.
Donc une difficulté à appréhender, à anticiper cette menace.
À comprendre. Typiquement, vous n'avez pas de DSI dans les COMEX du CAC 40. C'est un vrai souci.
DSI.
Les directeurs de services informatiques ne sont pas présents dans les comités qui sont censés prendre des décisions stratégiques pour des entreprises qui font face à Amazon et à Google.
Olivier Kempf, sur ce point.
Oui, sur le digital, le 21e siècle, enfin ce début du 21e siècle, on a une nouvelle énergie qui s'appelle la donnée. On sait bien les anciennes énergies, le charbon, l'essence, le nucléaire, ça nous a fait des révolutions industrielles et des révolutions stratégiques. Aujourd'hui, on a une nouvelle énergie qui s'appelle la donnée, qui emmène à la fois une révolution industrielle, que vient de décrire Fabrice, et une révolution stratégique. Le seul problème, et je reviens à votre première question sur que font les groupes intermédiaires et les PME, etc., etc., c'est que la plupart des décideurs politiques, un peu moins de grands groupes, mais des autres entreprises, etc., considèrent le cyber et le digital comme un centre de coût et pas un centre de croissance et de profit. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas cette conversion des esprits en prenant à juste mesure le digital, d'une façon générale, et à l'intérieur du digital, la conflictualité, ce qu'on appelle le cyber, la cybersécurité, la cyberdéfense, etc., etc., eh bien, on aura beaucoup d'avanies.
Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Fabrice Eppelboin, enseignant à Sciences Po, et Olivier Kempf, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Décryptage était réalisé ce soir par Claude Battista, attaché de production Elsa Olaizola et Patrick Adam à la rédaction en chef. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission. Le podcast est disponible sur l'application RFI Pure Radio ou sur notre site internet www.rfi.fr. Très bonne soirée à tous et à demain.